Le mois sans tabac continue sur InfoRC. Nous avons accueilli Agnès Douvrel. Elle est l'une des infirmières Azalée du Sud-Ardèche. Azalée pour Action Santé Libérale en équipe. Il s'agit d'un dispositif national. Pour en savoir plus, restez avec nous. Elle est notre invitée dans la voix des jeunes face aux addictions. Elle répond aux questions de nos jeunes de l'atelier radio du Collège Roca.
À l'occasion du mois sans tabac,
la voix des jeunes face aux addictions.
Une action jeunesse
pour garder les bonnes ondes.
Avec InfoRC, cultivons des
attitudes.
Avec InfoRC,
cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Pendant le mois sans tabac, la voix des jeunes face aux addictions.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives et l'éducation nationale.
Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs.
Aujourd'hui, nous allons interviewer Agnès Douvrel,
qui vient nous parler dans le cadre du mois sans tabac.
Cette interview est présentée par
Loris,
Camille
et Elora.
Allez, c'est parti mon kiki.
Quelques mots sur vous pour commencer.
Vous êtes infirmière Azalée. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence avec infirmière libérale ?
Oui, alors infirmière Azalée, c'est plutôt donc une infirmière qui va faire du dépistage et du suivi de maladies chroniques dans un cabinet médical. C'est-à-dire moi, je travaille dans un cabinet à Meyras. L'infirmière libérale, elle fait des soins, hein, des injections, des prises de sang, des pansements. Moi, je ne fais pas de soins comme ça. Je reçois les patients et je propose en fait de revoir par exemple leur prise de sang, d'adapter leur alimentation. Je leur propose de faire de l'activité physique en fonction des pathologies dont ils sont atteints. Y compris, je vais les soutenir par exemple pour arrêter de fumer. Je vais leur proposer des bilans mémoire. Je vais leur proposer, en fait, je fais moi essentiellement ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. Donc je soutiens en fait les changements et je permets aux gens en fait d'adapter leur vie par rapport aux maladies qu'ils ont.
Vous êtes également coordinatrice au pôle de santé des Hautes-Vallées d'Ardèche. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors la coordinatrice dans une maison de santé, c'est quelqu'un qui en fait va soutenir la dynamique d'équipe, va animer des réunions, par exemple, entre des professionnels de santé, et puis surtout va animer tous les projets que les professionnels de santé ont entre eux. Donc ça peut être des projets de prévention, des projets de promotion de la santé. Donc là, on parle aujourd'hui du tabac, donc ça peut être dans des actions par rapport au sevrage tabac, aider les gens à arrêter de fumer, mais ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être pour améliorer le dépistage des cancers, pour soutenir la parentalité. On fait plein de projets. Donc moi, je vais en fait gérer ces projets, gérer l'équipe autour de ça et coordonner tout ce monde. Alors on a aussi, par exemple, on a des réunions pour améliorer le parcours de nos patients, pour améliorer la prise en charge de nos patients. Ces réunions, bah, c'est moi qui vais les animer, qui les coordonne, qui envoie les invitations. On fait aussi des protocoles pour améliorer aussi la prise en charge de nos patients à domicile. Et donc, bah, ces protocoles, je vais aider les équipes à les mettre en place, les suivre, les évaluer.
Et comment vous gérez pour être infirmière Azalée et à la fois aussi coordinatrice ?
En fait, je fais moitié-moitié. C'est-à-dire, je fais 2 jours et demi pour mon activité d'infirmière dans le cabinet médical et le reste du temps, les 2 autres jours et demi, je suis coordinatrice. Donc, je change régulièrement de casquette.
Quel lien existe-t-il entre vos missions et la prévention du tabagisme ?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, dans le cadre du mois sans tabac, ben, on va lancer des stands un peu, on va travailler avec les professionnels pour promouvoir ce mois dédié au sevrage tabac. Dans mon activité d'infirmière, c'est justement aider les patients à arrêter de fumer.
Pour la suite de cette interview, nous parlerons du tabac, ses effets et ses méfaits. Et nous verrons comment vous accompagnez les patients dans l'arrêt du tabac.
Qu'est-ce que la nicotine ?
Alors la nicotine, c'est une substance qui se trouve naturellement dans le tabac, donc dans les cigarettes. Et le problème, c'est que c'est cette substance-là qui rend dépendant. Voilà, donc la nicotine, elle a aussi une action euphorisante, hein, elle donne du plaisir, elle améliore l'humeur, elle soutient un peu la concentration. Mais le souci, c'est que le cerveau, lui, il s'habitue à cette substance et puis il réclame des doses de plus en plus fortes.
Est-ce que tout le monde réagit pareil à la nicotine ?
C'est une substance, de toute façon, qui provoque la dépendance. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que les gens, y a des gens qui vont expérimenter, notamment à l'adolescence. Et puis, tout le monde ne va pas devenir fumeur, heureusement. Donc, on va dire qu'il y a des gens qui accrochent plus avec ce produit que d'autres. Et donc, il y en a qui vont devenir dépendantes, mais tout le monde ne le devient pas. Et donc, moi, je dis toujours à mes patients, la plupart ont commencé de fumer jeune, hein, à l'adolescence, voire avant. Et je leur dis toujours, c'est la rencontre entre vous, entre ce produit à un moment donné de votre vie. On ne peut pas dire que tout le monde réagit pareil, mais c'est vrai que si on donnait de la nicotine à haute dose à tout le monde, tout le monde serait probablement dépendant, c'est clair.
Qu'est-ce que le tabac provoque sur nos organes ?
Alors, plein de choses. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac, c'est la première cause de mortalité évitable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne fume pas, on évite un certain nombre de maladies. Donc le tabac, lui, il bouche nos artères, hein, c'est ce qu'on appelle l'artériosclérose. Et donc il va avoir des conséquences sur notre cœur, il va avoir des conséquences sur notre cerveau, par exemple. Hein, et puis un peu sur tout plein d'organes, hein, il va modifier notre teint, le goût, l'odorat, les dents aussi. Et puis il peut y avoir aussi des gens qui se trouvent plus fatigués, qui ont moins d'énergie. Voilà, ça peut être des effets aussi liés au tabac.
Quelle maladie peut-on attraper à cause du tabac ?
Alors, le tabac, il est responsable, on en parle beaucoup, il est responsable de nombreux cancers. Et puis, il est responsable aussi de ces maladies, quand ça bouche nos artères. Hein, donc, on peut avoir ce qu'on appelle des maladies cardiovasculaires. On peut faire des infarctus du myocarde, c'est-à-dire un arrêt cardiaque, en fait. Des accidents vasculaires cérébraux, puisque ça bouche aussi nos artères. Et puis, il y a une maladie aussi du souffle, qui s'appelle la BPCO, qui est une maladie qui est assez méconnue et qui est liée à 90% au tabac. Donc, c'est des gens qui ont du mal à respirer ensuite hein, à cause de cette maladie, puisque ça devient... ça crée une obstruction au niveau des bronches. Donc, parmi ça, après, on sait aussi que l'hypertension artérielle peut être liée au tabac. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que le tabac, on dit que tue 6 millions de personnes dans le monde hein, par an. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Et 75 000 en France, dans les derniers chiffres en tout cas.
Et au bout de combien de temps on peut attraper des maladies graves ?
Alors pour développer une maladie mortelle, on dit qu'il faut fumer chaque jour pendant 15 ans. Donc après ce temps-là, en fait, on va avoir 20 fois, les gens vont avoir 20 fois plus de risques d'attraper par exemple un cancer du poumon. Et 3 fois plus de risque d'être atteint par une maladie liée à l'artériosclérose, donc qui bouche nos artères. Et en fait, le souci, c'est que comme le tabac, il rend très vite dépendant, même une seule cigarette, finalement, ça ne va pas entraîner forcément une maladie en soi, mais une seule cigarette, ça peut, ça augmente le risque de devenir fumeur, et donc ça augmente le risque de devenir malade.
Y a-t-il plus de risques pour les femmes ou les hommes de tomber malades ?
Pour ça, j'ai pas vraiment de chiffres. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que hommes et femmes, ils sont à risque de développer des maladies. Hein. Ces maladies, par contre, elles vont pas toucher de la même manière les hommes et les femmes. Et on sait, par exemple, que chez les femmes, on a un petit peu plus de difficultés, de retard à diagnostiquer certains problèmes, notamment les problèmes cardiaques. Les maladies cardiovasculaires sont assez sous-diagnostiquées chez les femmes. Et c'est pareil pour la maladie du souffle dont je parlais tout à l'heure.
Est-ce que la cigarette a un effet sur la sexualité ?
Donc il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau de l'érection, chez les hommes notamment, parce qu'il y a une atteinte de ces vaisseaux et donc il y a une réduction de la circulation sanguine. On sait qu'il peut y avoir aussi une baisse du désir chez les hommes comme chez les femmes. Et on sait aussi que ça peut baisser la fertilité. Voilà, ça peut avoir une conséquence en fait, sur la fertilité, donc la difficulté ensuite à concevoir des enfants.
Est-ce que le tabac est considéré comme une drogue ?
Alors oui. C'est considéré comme une drogue, ça c'est à cause de la nicotine hein, contenue dans le tabac, qui entraîne donc une dépendance. Donc c'est ce qu'on appelle une drogue, puisqu'en fait le fumeur, lui, il va être privé de sa liberté de s'arrêter de fumer. C'est-à-dire, il va toujours avoir envie de s'acheter des cigarettes et de fumer, même s'il prend des super résolutions la veille en disant demain j'arrête, c'est plus possible. En fait, le cerveau, lui, il réclame sa dose. Et donc, c'est, voilà, on perd la liberté de se passer d'un produit. C'est ça la problématique de la drogue. Et donc, voilà, on peut plus s'en passer.
Est-ce que c'est simple d'arrêter une addiction à la cigarette ?
Alors, simple, non, c'est pas simple. Ça nécessite d'être accompagné. Et pourquoi c'est pas simple ? C'est parce que le tabac, lui, provoque en fait une très forte dépendance, très très forte et rapide. En quelques semaines, hein, ça peut aller très vite, hein, chez les jeunes qui vont se mettre à, par exemple, les jeunes qui vont se mettre à fumer régulièrement, même à vapoter, hein, la puff aussi, hein, puisqu'il y a de la nicotine dans la puff. Donc, après, y a deux ingrédients, je dirais, qui sont importants pour améliorer ses chances à l'arrêt. C'est d'être accompagné, soutenu, hein, par un professionnel, mais aussi soutenu par son entourage, ça c'est super important. Et puis d'être motivé. Je dis souvent que voilà, c'est quand même le plus gros du travail, c'est la motivation. Depuis 2024, on constate quand même qu'il y a de moins en moins de fumeurs. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a quand même un mais, c'est que il y a de plus en plus de gens qui vapotent et chez les jeunes, il y a la puff, voilà, qui est quand même un problème puisque ça rend dépendant aussi puisqu'il y a de la nicotine. Alors, effectivement, il n'y a plus de la combustion de la cigarette, c'est de la vapeur, mais ça rend quand même toujours, voilà, il y a toujours la nicotine.
C'est quoi le plus dangereux entre la puff et la cigarette ?
Entre la puff et la cigarette, la cigarette, il y a... C'est du tabac qui est chauffé, donc qui du coup produit de la combustion et donc du monoxyde de carbone, et c'est ça qui est dangereux pour nos artères. C'est pour ça que parfois on conseille à des gens de s'arrêter grâce à la cigarette électronique. Parce qu'il n'y a plus ce monoxyde de carbone, le tabac n'est pas chauffé, c'est de la vapeur. Après, la problématique de la puff, chez les jeunes notamment, c'est que sous couvert d'un truc assez sympa... rose fluo, jaune fluo, avec des licornes, etc. On oublie en fait que c'est un produit qui rend dépendant. Et donc, en fait, les jeunes aujourd'hui rentrent dans le tabagisme avec la puff et à terme seront des adultes fumeurs probablement. Les comportements vont changer, mais ils risquent de passer sur des cigarettes classiques.
En tant qu'infirmière Azalée et coordinatrice du pôle de santé de Meyras, vous travaillez en étroite collaboration avec les médecins de Meyras pour améliorer la prise en charge des patients. Dans le cadre de l'arrêt du tabac, comment vous fonctionnez ?
Alors, en général, les patients me sont adressés directement. Parfois, certains viennent spontanément parce qu'ils ont entendu parler de moi. Donc, ils vont prendre rendez-vous avec moi. Et moi, je les reçois. Donc, effectivement, je travaille en partenariat avec les médecins. Et en fait, on a un logiciel qui est partagé. C'est-à-dire que, voilà, on partage ensemble toutes les données. Donc, la consultation que je vais faire, elle va être vue par le médecin. Et je vais pouvoir aussi m'appuyer sur le médecin s'il y a une autre problématique. Donc moi, je reçois les patients et je leur propose un bilan tabac. Et pendant ce bilan tabac, les gens vont me raconter un peu leur histoire de vie avec le tabac. Depuis combien de temps ils fument, pourquoi ils fument, qu'est-ce que ça leur procure, si dans leur environnement il y a des fumeurs, enfin leurs habitudes de vie avec le tabac. Et ensuite, on travaille sur l'entretien motivationnel. C'est-à-dire que moi, je vais faire émerger aussi chez ces gens qu'est-ce qui les motive en fait à arrêter de fumer. Est-ce qu'ils ont des peurs ? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés ? Et s'appuyer plutôt sur tout ce qui est important pour eux et cette motivation qui, du coup, si toutefois elle est pas assez élevée, comment est-ce qu'on peut la renforcer ? Donc on travaille vraiment comme ça ensemble avec le patient. Et ensuite, le patient va dire, souvent il a déjà une petite idée de comment il veut arrêter de fumer. Donc moi, je l'accompagne dans ce qu'il a envie de faire, en fait. Hein. Donc soit c'est prescription de traitement de substitution. Donc un traitement de substitution, c'est quelque chose qui va remplacer la cigarette sous forme de patch ou de pastille. Parfois, il y a des gens qui se tournent vers d'autres thérapies, hein, comme l'hypnose, l'acupuncture, des choses comme ça. Pareil, je les accompagne vraiment sur les objectifs qui se sont fixés. C'est pas mes objectifs à moi, c'est vraiment lui ou elle qui va décider de comment il va faire. Voilà. Et une fois qu'on démarre le sevrage, si tant est qu'on le démarre tout de suite, je les revois assez régulièrement en fait, pour les soutenir, pour les aider.
En quoi cette manière de travailler en équipe facilite-t-elle le suivi des patients fumeurs ?
Alors, c'est très complémentaire. De toute façon, moi, dans mon activité, mon rôle aussi, c'est de libérer du temps médical. Parfois, pour les médecins, c'est un peu compliqué d'avoir ce temps-là pour faire émerger la motivation. Donc, c'est vraiment en complémentarité avec le médecin. Et puis, ça me permet, moi, en fait, d'avoir, comme j'ai un peu plus de temps, ça me permet finalement de reconvoquer les gens, de les voir plus souvent, plus régulièrement. Donc, c'est l'intérêt.
Vous effectuez également des actions de prévention par rapport au tabac. Quelles formes peuvent prendre ces actions ?
Alors, je peux faire des animations dans le cadre du mois sans tabac. Donc ça, ça va être sous forme de stand, par exemple, stand d'information, voilà, général, on va dire, pour sensibiliser les gens. Ça peut être des ateliers. Donc j'ai déjà fait des ateliers, par exemple, avec notre diététicienne. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à la prise de poids. Donc on essaie de travailler avec ça aussi. Donc on reçoit des patients, on les voit en atelier collectif et on travaille là-dessus. Hier, par exemple, j'ai animé un petit stand auprès de jeunes ados. Donc là, c'était plus pour sensibiliser aux méfaits du tabac, sensibiliser au danger.
Comment accompagnez-vous les gens qui n'arrivent pas du tout à arrêter de fumer ?
Ceux qui n'arrivent pas du tout à arrêter de fumer, souvent c'est parce qu'il y a cette problématique justement de motivation ou de peur. Donc c'est vraiment soutenir la motivation, les encourager et puis voir là où il y a ce qu'on appelle des freins, c'est-à-dire des choses qui les empêchent un peu d'arrêter de fumer. Hein. Comme je disais tout à l'heure, en fait, pour beaucoup de gens, en fait, le tabac, c'est aussi un peu une béquille, ça provoque du plaisir, il y a ce sentiment que ça va aller mieux en fumant, que ça va faire passer les angoisses, le stress, tout ça. Et donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de stress, bah, il faut lutter aussi sur ça avant d'arrêter de fumer, parce que sinon, les gens, ils n'ont plus leur béquille et ils ne savent pas comment gérer. On peut aussi les encourager à faire de l'activité physique, si toutefois, ou des activités, quelles qu'elles soient. Finalement, évidemment, l'activité physique, c'est intéressant parce que ça provoque aussi du plaisir, hein, puisque ça active aussi des hormones du plaisir. Des fois, je leur propose aussi d'aller voir un psychologue ou un thérapeute pour justement gérer un peu les émotions, le stress. Et puis, je travaille aussi en collaboration avec le XAPA. Hein, qui du coup est un centre de soins, lui, qui est spécialisé dans les addictions. Et donc, on va aussi pouvoir, parfois chez certaines personnes, notamment des gens qui vont avoir plusieurs dépendances, parce qu'on peut avoir des dépendances à plusieurs addictions, à plusieurs produits, à l'alcool, au cannabis, au tabac.
Quelles sont les méthodes qui fonctionnent le mieux selon vous ?
Pour moi, la méthode qui fonctionne le mieux, c'est soutenir la motivation, le suivi rapproché, un accompagnement par un professionnel, que les gens sentent aussi que on peut les aider, hein. Il y a plein de professionnels qui peuvent les aider, il n'y a pas que les infirmières azalées. Et donc de se sentir soutenu, bah, ça aide beaucoup. L'entretien motivationnel dont je parlais tout à l'heure. Et après, sur des traitements qui fonctionnent, bah, il y a les traitements de substitution, hein, qui fonctionnent bien, qui augmentent quand même nettement la chance d'y arriver parce qu'on gère justement cette dépendance physique. Les gens, ils sont moins mal, en fait, puisqu'ils ont leur dose de nicotine, hein, qui continue de diffuser par une autre, d'une autre manière qu'avec la cigarette. Mais voilà, sur le patch collé sur la peau. Et puis après, il y a des gens aussi qui se tournent vers d'autres thérapies, comme les thérapies cognitives ou comportementales. Voilà, donc pour moi, je n'ai pas des méthodes qui fonctionnent le mieux.
Si une personne a envie d'arrêter de fumer, elle peut donc vous contacter. Mais comment ?
Alors, elle peut me contacter. Alors, la particularité des infirmières azalées, c'est que nous sommes, entre guillemets, dépendante du médecin avec qui on travaille. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas recevoir tous les patients qui ont envie d'arrêter de fumer. Il faut qu'ils soient suivis par un des médecins avec qui je travaille et qui lui-même a une sorte de partenariat avec Azalée, qui est un dispositif national. Après, quand ce sont des patients du cabinet médical, bah, ils peuvent me contacter par téléphone ou appeler directement au secrétariat du cabinet médical.
Existe-t-il un numéro spécial pour arrêter de fumer ?
Oui, alors il y a Tabac Info Service qui a mis en place un numéro 3989, c'est un numéro national, qui va lui relayer vers des professionnels selon là où la personne habite. Et après, pour les jeunes, il y a le Fil Santé Jeunes, hein, qui du coup est aussi accessible. Voilà, c'est un service anonyme gratuit et qui va relayer aussi vers d'autres services plus spécialisés. Le Fil Santé Jeune, c'est pour plein de questions. Hein. Ça peut être sur la contraception, la sexualité, voilà. Et donc, effectivement, les addictions aussi.
Nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview.
Mais avant toute chose, avez-vous quelque chose à rajouter ?
C'était très bien. Vos questions étaient très pertinentes.
Et bien évidemment, la question traditionnelle.
Quelle opinion avez-vous envers les radios situées au sein d'un établissement scolaire tel InfoRC ?
Alors, je connais que InfoRC, je vous écoute souvent. C'est très, très intéressant en plus de vous emparer de sujets comme ça. Et puis, c'est vous qui construisez vos questions, c'est vous qui faites l'interview. Et puis, en plus, c'est ça qui est chouette, c'est que ce soit fait par vous pour collégiens, lycéens. Donc, c'est toujours le plus pertinent, à mon sens.
Et aussi, merci à vous, car comme on en a appris plus sur vous, notre QI augmentera.
Et au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures trop rigolotes sur la radio InfoRC. À l'occasion du mois sans tabac,
la voix des jeunes face aux addictions.
Une action jeunesse
pour garder les bonnes ondes.
Avec InfoRC, cultivons des attitude.
Avec InfoRC,
cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Pendant le mois sans tabac, la voix des jeunes face aux addictions.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives et l'éducation nationale.